De par sa naissance, Monseigneur de Solmignac était un grand seigneur, évêque, baron et comte de Cahors. Ses droits étaient très importants. Mais Alain n'oublia jamais qu'il était religieux et son épiscopat fut un des plus prestigieux de l'époque. Il continuait à mener une vie simple et vraiment monacale. Au fil des années, Alain augmentera son temps d'oraison, la prière étant la force qui lui permettait d'accomplir son travail, et cela d'autant plus que, comme il avait réformé son abbaye, il allait, après le synode d'avril 1638, entreprendre la réforme de son diocèse. La réforme ne se mit en place que lentement, et Alain dut lutter pendant longtemps contre l'incurie intellectuelle du clergé, ses abus et ses infractions. Sa sévérité ne fut pas du goût de tout le monde, et les plaintes, les procès contre Monseigneur Alain se multiplièrent. « L'évêque tient bon. Je dépenserai plutôt tout mon revenu que de souffrir en mon diocèse les vices du clergé. Si le Parlement ne me fait pas justice, j'irai me jeter aux pieds du roi pour la lui demander. » Dans le diocèse de Cahors, un nouveau clergé allait naître. Trois objectifs furent décidés par Alain pour ses prêtres. La vie spirituelle du prêtre, la vie morale et la pastorale. Par ailleurs, l'adoration du Saint-Sacrement était particulièrement chère à Alain. Sans heurts, Monseigneur Alain mettait en œuvre la réforme tridentine et les fruits intellectuels furent nombreux. Les curés se mirent à relire l'Écriture, les pères de l'Église et les décrets du Concile de Trente. Un livre relativement récent fut vivement conseillé, l'Introduction à la vie dévote de François de Sales. Enfin, pour établir l'unité dans son clergé, Monseigneur Alain fonda la confrérie du Saint-Esprit. Mais il fallait aussi, d'urgence, renouveler la foi chrétienne de son peuple. Pour ce faire, Monseigneur Alain mit en œuvre les missions paroissiales. Il savait qu'il pouvait compter sur ses moines de chancelade. Des équipes de 6 chanoines mirent tout en œuvre pour attirer les populations et rééduquer leur foi. À ses missionnaires, Alain recommandait la pureté d'intention, le zèle pour la gloire de Dieu et surtout l'humilité. Tous les moyens devaient être mis en œuvre pour intéresser les foules et les méthodes préconisées par Monseigneur Alain nous étonnent par leur modernité. À la fin de la mission, confession et communion couronnaient ces riches journées paroissiales. Les résultats furent considérables. Après 12 ans de fonctionnement, les vieux et les jeunes, depuis l'âge de 5 à 6 ans, savaient non seulement les commandements de Dieu et les mystères de notre foi qu'ils étaient obligés de savoir, mais encore en rendaient raison d'une façon qui ravissait d'admiration ceux qui le voyaient. En effet, Monseigneur Alain avait fait diffuser un catéchisme facile à retenir et facile à réciter, car c'était des vers et tout le monde les savait par cœur. Dès le début de son épiscopat, conformément aux consignes du Concile de Trente, Monseigneur Alain avait manifesté son intention d'ouvrir un séminaire. Les oppositions furent nombreuses, mais protégé par le roi dès 1643, le séminaire de Monseigneur Alain allait se développer rapidement et devenir un vrai lieu de formation spirituelle. Dans son séminaire, Monseigneur Alain insistait beaucoup sur la nécessité de l'oraison, cet exercice capital. Tous les 15 jours, les séminaristes devaient se confesser et travailler à leur véritable conversion. En 1659, le séminaire de Cahors comptait 60 séminaristes et le clergé du diocèse de Cahors avait reconquis sa dignité au sein du peuple de Dieu. Notons ici que Monseigneur Alain de Solmignac eut à lutter contre le jansénisme et le calvinisme bien implantés dans la région. Mais grâce à sa sainteté et à son travail d'évangélisation, une grande partie de la noblesse et du peuple revint au catholicisme. On peut ajouter que la mystique d'Alain était proche des spiritualités de la Compagnie du Saint-Sacrement et de la Compagnie de la Passion, compagnie qui comptait de nombreux amis de Monseigneur de Solmignac. Le père Suffren, M. Vincent, M. Ollier, l'évêque de Limoges, etc. Ces compagnies, que Monseigneur Alain établit dans son diocèse dès 1639, lui furent d'une grande aide. Nous devons bien comprendre que pour réaliser une œuvre d'une telle ampleur, Monseigneur Alain de Solmignac eut à affronter de nombreuses épreuves. Évêque de Cahors et toujours abbé de Chancelade, Alain devait assumer 2 lourdes charges, poursuivre la réforme de plusieurs abbayes et réformer son clergé. En 1651, la santé de Monseigneur Alain déclina dangereusement et on le crut perdu. Déjà, on lui cherchait un successeur. Nous sommes en 1652. Mais peu à peu, Monseigneur Alain reprit son rythme normal d'activité. Par ailleurs, le diocèse de Monseigneur Alain eut affronté les soubresauts de la Fronde de 1649 à 1653, dont les habitants des campagnes furent les grandes victimes. Il y affrontait aussi des famines et la peste bubonique à partir d'octobre 1652. À cela, il faut ajouter, dès 1651, les intrigues de toutes sortes dont fut victime Monseigneur Alain, car les réformes du clergé qu'il avait entreprises dérangeaient certaines personnes et les aidaient des intérêts. Ce qui me mécontentait le plus de nombreux prêtres, c'était l'existence d'un séminaire. Monseigneur Alain confia un jour que les calomnies les plus grandes ne lui faisaient pas plus d'impression qu'un fétu de paille qui tomberait sur son camail. L'autorité de Monseigneur Alain sortit renforcée de cette grande épreuve. Nous sommes en 1659. Monseigneur Alain, qui pourtant paraissait sans force, voulut reprendre ses visites pastorales, mais sa dernière visite pastorale fut à Alvignac, le 26 septembre 1659. Monseigneur Alain accepta l'épreuve de sa retraite et de ses souffrances. Le 8 décembre 1659, il monta à l'autel pour la dernière fois. Le 30 décembre 1659, à 22 h, il était très mal. Se tournant vers son homme de chambre, il dit « Je mourrai demain sur le midi ». Le lendemain matin, 31 décembre, vers 10 h, Monseigneur Alain sortit de son oraison et annonça « À midi, je serai consommé ». À tous ceux qui l'approchaient, il murmurait « J'achève mon sacrifice ». Quand l'horloge du château sonna les 12 coups de midi, Alain s'en alla vers son seigneur. Il avait 58 ans. Alain de Solmignac avait un tempérament de feu. L'homme pouvait donc se montrer particulièrement irritable. Mais sous sa férule, son clergé s'améliora rapidement. De plus, il faut savoir qu'Alain de Solmignac, qui semblait moralement et intellectuellement une force de la nature, était aussi un grand mystique. Quelques rares confidences, échappées devant des proches collaborateurs, ont dévoilé les secrets de son âme entièrement livrée au roi des rois. Alain fut favorisé, déjà à Chancelade, de faveurs mystiques rares et singulières. Mystique, l'évêque de Cahors le fut, mais ce qui le guidait toujours, c'était la volonté de Dieu. Alain de Solmignac se voulait image vivante de Jésus-Christ, le très parfait exemplaire de toute sainteté. L'oraison était la respiration spirituelle, tant de l'abbé de Chancelade que de l'évêque de Cahors. Elle entretenait son activité et la conditionnait. Dans sa grande familiarité avec Dieu, Alain recevait les lumières pour diriger son abbaye ou son diocèse et connaître le cœur de ses chanoines ou les difficultés de son clergé. M'ôter l'oraison, ce serait m'ôter la vie, ne cessait-il de dire. N'oublions pas non plus qu'Alain de Solmignac avait toujours eu une profonde dévotion envers la très sainte Vierge Marie. Gentilhomme, il la considérait comme sa dame et il s'était déjà mis sous sa protection, car le meilleur moyen d'assurer son salut, c'est d'être serviteur de cette sainte dame. D'un gentilhomme, faire un abbé réformateur, puis un évêque saint, les voies du Seigneur sont impénétrables et imprévisibles, mais elles sont toujours admirables. Alain de Solmignac fut béatifié le 4 octobre 1981 par le pape Jean-Paul II.